Canada, Europe, Nike Radio est là pour vous. Une station iHeartRadio.
Voilà, on est de retour, Michel Tédalère avec vous à Prends ton gaz égal en ce mardi 21 avril, il est 16h31 et j'ai décidé de reprendre une entrevue. On a essayé de faire des choses hier, puis finalement j'ai parlé dans le vide pendant quoi, 1h30 certainement. On a perdu tout le show d'hier. Je m'en étais juste pas rendu compte qu'on n'était pas tout à fait en onde. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé très fort. J'ai travaillé sur les problèmes techniques. On a changé notre façon de faire et je vais pouvoir reprendre cette extraordinaire entrevue parce que c'est une personne vraiment à connaître. Il s'agit de Christelle Duquenoy. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Je vais très bien.
Hey, c'est génial. Je suis content qu'on ait pu recommencer notre petite entrevue parce que malgré tout, ça avait été extrêmement intéressant hier, mais il y a juste toi et moi qui l'a entendu, donc on va se reprendre.
Mais faut on va essayer en rire. D'élargir.
Oui, puis il faut prendre ça en riant. Moi, je trouve ça toujours très drôle, ces choses-là. Il y a des gens... De toute façon, écoutez, moi, je regarde les budgets qu'ont Radio-Canada comparativement à nous ici à Nike Radio, et eux aussi ont des problèmes. Donc, à quelque part, je me dis, écoute, c'est pas une question d'argent, c'est une question de... le confinement change nos façons de travailler, nos façons de faire, et voilà. C'est là où on s'en retrouve. Mais, trêve de palabres, on va s'en aller vraiment dans le vif du sujet. Donc, Christelle Duquenoy, tu es une personne qui a écrit un livre, mais avant que je nomme le titre, tu l'as fait grâce à une histoire quand même qui est assez spéciale. Pour qu'on puisse s'en aller vers ça, il faut apprendre à te connaître un petit peu et dis-moi, donc Duquenoy, c'est pas un nom que je suis habitué d'entendre ici au Québec, donc t'es peut-être pas tout à fait originaire d'ici, est-ce que je me trompe?
Non, tu te trompes pas. On va dire qu'on est... Je suis cousine. Je suis née en France.
Ah! Dans quel coin de la France?
Alors, vraiment dans le haut proche de la frontière belge, donc le nord de la France. Il y a un film célèbre qui est sorti sur nous, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Ça dira peut-être quelque chose à certaines personnes du Québec. C'est un film drôle qui a quand même fait le tour de pas mal de pays. C'est ça, c'est une région où il pleut beaucoup, où les nuages sont souvent gris et où on trouve notre soleil dans nos cœurs.
Non, je n'ai pas vu le film, mais moi, aimant beaucoup les films européens, que ce soit britannique, que ce soit français ou belge ou même italien, va falloir absolument que je fasse une recherche et que je trouve ce film, histoire de rigoler un peu.
C'est ça.
Alors voilà, et là, bon, éventuellement, tu as déménagé au Québec, tu es venu nous rejoindre et ça, on en est très content. Mais ça fait combien de temps que tu es avec nous?
Ça fait 5 ans, ça a fait 5 ans. Donc au mois de décembre, ça fera 6 ans.
Wow, quand même, le temps passe vite, mais d'une certaine façon, c'est en même temps très récent. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené au Québec de vouloir venir de vivre avec nous?
Ben, ouais, j'étais venue en vacances. La première fois, je suis venue 15 jours faire des B&B et aller de Montréal au Saguenay, environ, dans tout un périple. Puis, oui. J'ai aimé l'ambiance, l'art de vivre au Québec. Je trouvais que c'était vraiment détendu. Des gens assez ouverts d'esprit, et c'est quelque chose qui me convenait beaucoup.
Ah bon, ben écoute, Montréal, le Saguenay au Québec, c'est quasiment faire l'Espagne à la Pologne. Je taquine.
Oui.
Et voilà, et donc, je crois également que écrivaine, c'est pas ton métier principal, je crois que tu fais autre chose également.
Oui. Je suis dentiste de profession.
Wow! Et ça, ça t'a permis quand même de travailler ici et de pouvoir continuer ton métier avec nous?
Oui, bah, en passant une équivalence de diplôme, un stage de 6 mois supervisé par un dentiste d'expérience québécois. Et après ça, ben, une fois que le stage est validé, l'équivalence, on l'obtient quelques mois après. Ça prend entre 9 et 12 mois, je pense.
Wow, quand même, quand même. Eh bien, bon, ben, on est content de t'avoir avec nous. Et c'est durant ton expérience, je crois, par ici, même au Québec, si je me trompe pas, tu me corrigeras si je me trompe, qu'il est arrivé un événement qui a fait en sorte qu'il t'a inspiré le livre que tu as écrit.
Oui, c'était au Québec, effectivement, au début, quand je suis arrivée, que j'étais encore en stage d'ailleurs. J'ai une patiente qui est venue pour se faire enlever les dents de sagesse, mais elle était
Ouch.
dans un contexte de vie particulier, à savoir que ça, je ne le savais pas. Elle était entre deux chimiothérapies. Donc, si je savais qu'elle était entre
Oh.
deux chimiothérapies, mais je ne savais pas la gravité de la situation. Et elle arrive vraiment avec un sourire débordant de joie dans la clinique, chose qui n'est pas habituelle quand tu viens de faire enlever tes dents de sagesse.
Oui, j'en sais quelque chose.
Et là, je fais l'anesthésie, je discute avec elle, et là, elle m'apprend toujours avec le même sourire qu'elle est en stade 4 de cancer et
Oh, pas sérieuse.
on vient lui annoncer qu'elle en avait pour 6 mois.
Oh.
Et elle continue à raconter son histoire dans une espèce de détente extraordinaire. Puis elle me dit, ben, de toute façon, moi j'ai encore des choses à faire ici sur cette terre. Et puis j'irai lui dire qu'il s'est trompé, le docteur. Et elle a continué à irradier toute la clinique de son sourire. Et quand elle est repartie, on avait tous une énergie complètement modifiée. Et on s'est dit, waouh, il s'est passé quelque chose. Et moi, d'une part, ça m'a fait donc comme une révélation sur la puissance du sourire. Après ça, j'ai su que finalement, enfin, j'ai suivi cette personne. Elle a vécu finalement 4 années, puis elle a pu faire tout ce qu'elle avait l'intention de faire, qu'elle avait dit qu'elle ferait.
Wow, 4 années supplémentaires. Elle l'avait bien dit au docteur qui s'était trompé.
C'est ça. Et c'était une révélation pour moi aussi, d'autant plus que à cette période-là, personnellement, moi, j'étais pas dans le sourire
Oh.
dans ma vie, parce que, ben, on va dire que j'étais enfermée dans une relation toxique avec un mari qu'on appelle communément un pervers narcissique.
Non,
Donc,
OK.
ça faisait comme 16 ans que j'étais enfermée là-dedans, et moi, j'étais en train de mourir à petit feu à ce moment-là quand j'ai rencontré cette personne-là. Donc là, je me suis dit, elle a un pronostic de fin de vie, puis elle est capable de garder son sourire, elle est capable de nous donner cette énergie-là, de transformer la nôtre. Et moi, là, qu'est-ce que je fais avec ce que je vis? Moi, je suis en santé. On m'a pas dit que j'allais mourir demain.
Ouais.
Donc là, ça a fait comme ça a remué pas mal. Et je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi, cette histoire du sourire, là. Puis je vais en faire quelque chose aussi. Donc moi, j'en ai fait quelque chose pour moi. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire sur le sourire parce que je voulais partager aux autres c'était quoi la puissance du sourire.
Oui, puis il y avait également un peu là, tu avais de la difficulté déjà dans ce que tu vivais dans ta vie personnelle, mais ta vie voyons, professionnelle avait ses difficultés également.
Ben, disons que oui, c'était pas une ambiance là où je travaillais, c'était pas une ambiance de sourire non plus. Donc l'un dans l'autre, tu sais, il faut le trouver, le sourire,
Ben oui, c'est pas
si
évident.
tu étais en une espèce de chaos tout autour. C'est là où j'ai dû apprendre à aller chercher mon sourire. Le fait de commencer ce livre pour partager la révélation que je venais d'avoir, ben, quelque part, moi, ça m'a l'écriture, hein, c'est très bon pour faire ressortir des choses et pour faire un travail intérieur. Donc, en fait, au fur et à mesure que j'écrivais, il se passait des choses. Moi, j'avançais sur le chemin de mon propre sourire. Et petit à petit, ça a fait que moi, j'ai posé mes premières limites à cette personne-là qui m'enfermait. Puis j'ai transformé tout mon monde.
Wow.
Et donc, c'est À la fin du livre, ça raconte un petit peu tout le chemin que j'ai fait aussi à travers les différents thèmes que j'expose sur le sourire. Il y a en filigrane le parcours que j'ai pu faire aussi. Et donc, c'est tout ça, le livre. C'est comme... ça peut donner de l'espoir aussi aux personnes, aux femmes ou aux personnes qui ont vécu le même genre de choses, à savoir vivre dans la violence et puis être dans une grande difficulté par rapport à ça. Mais ça donne aussi des pistes pour plein d'autres choses dans tous les thèmes qui se retrouvent dans le livre. Je pense que chaque personne qui lit le livre va le lire différemment et va trouver dans certains chapitres ce qui lui concerne le plus pour son sourire à lui.
Wow!
Ou à elle. Ben... Donc chacun va le lire à sa façon, mais chacun va en retirer ce qu'il a besoin pour aller chercher le sien du sourire du cœur.
Oui, c'est ça. Donc, ben justement, c'est justement le titre du livre, Le sourire du cœur, apprendre à sourire même dans les moments difficiles, qui est publié par le Dauphin Blanc.
Mm-hmm.
Dis-moi, il y a quand même un processus spécial d'écriture dans ce livre-là, dans la façon qu'il a été composé.
Oui.
Au niveau des chapitres, je crois, il y a une forme d'indépendance dans sa façon d'être écrit.
Oui, c'est ça. En fait, on pourrait même presque le lire comme on veut.
Dans le désordre.
on pourrait même presque l'ouvrir par hasard et tomber sur le chapitre qui nous concerne le plus, si on veut. Oui, parce qu'en fait, c'est tous des thèmes différents. Il y a comme sourire aux erreurs, sourire aux différentes étapes, sourire à sa santé, sourire au handicap, sourire à la gratitude. Enfin, il y a plein de thèmes différents comme ça, donc c'est pas des longs chapitres, mais je pense que ça peut, ça crée peut-être une révélation sur certains points pour chacun d'entre vous finalement.
Et quelqu'un qui le lit qui fait une lecture avec un œil un peu observateur, un petit peu voyeur au sujet de l'auteur qui est toi, peut remarquer également que la façon d'écrire change plus le livre avance.
Oui. C'est complètement. Avant, d'une part, quand j'ai commencé le livre, je ne m'aimais pas. Donc, j'ai commencé à m'aimer à 44 ans.
Mieux vaut tard que jamais.
Oui, ce que j'écris au début du livre, je l'écris avec ce masque-là de la personne qui ne s'aime pas du tout. Puis je dis des choses peut-être sur des événements de ma vie tels que je les percevais dans ce masque-là. Puis au fur et à mesure que je vais vers mon sourire, ben je me rapproche de qui je suis vraiment, puis je commence à m'aimer. Et du coup, mes perceptions changent complètement. Donc, à un moment donné, quand je suis arrivée au milieu du livre, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je censure ce que j'ai écrit au début ou je le laisse? Puis, à la fin, je me suis dit, non, je vais laisser parce que ça montre bien les différentes facettes de ce qu'on... Voilà, tout ce à quoi on est confronté quand on s'aime ou quand on s'aime pas.
Oui, ben dans l'entre-ligne, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'on voit que de travailler son sourire du cœur, dans l'évolution du livre, on voit que ça fonctionne, ça amène cet angle-là ou cet aspect-là qui est un petit peu différent, qui n'est pas écrit tel quel, mais quelqu'un qui est assez sensible pour le détecter va se rendre compte, OK, ça fonctionne parce qu'elle-même a changé pendant l'écriture de son livre.
Tout à fait, oui.
Et là, aujourd'hui, ça a l'air de quoi, ta vie?
Puis ça va même plus, c'est ce que j'allais te dire, ça va même plus loin parce que, donc le sourire du cœur, à la fin du sourire du cœur, j'arrive à l'amour de moi, mais j'ai continué dans cette voie-là. Donc là, je suis en train d'écrire évidemment un deuxième livre pour justement montrer la suite de tout ce parcours parce que quand on expérimente le sourire du cœur de plus en plus, puis qu'on est là-dedans de plus en plus quotidiennement, on arrive au sourire de l'âme pour moi.
Oh.
C'est le sujet du deuxième livre.
Wow.
Donc je vais tranquillement vers ça, puis je me laisse le temps de l'écrire en fonction aussi de ce que je vis. Donc, c'est ça. Il est en cours.
Wow, c'est des bonnes nouvelles. Puis maintenant, ça l'a apporté également beaucoup de changements dans ta vie. Et je souhaite ou j'espère, je te pose un peu la question, est-ce que maintenant, l'ensemble des choses qui étaient une difficulté pour toi, c'est des choses que tu as pu réussir à mettre derrière toi?
Bah, totalement derrière, oui, dans ma tête, je suis détachée et je suis dans mon être et tout va bien de ce côté-là. Après, je ne peux pas dire que son histoire à lui, ce que lui n'est pas encore en train de m'embêter sur certaines choses, mais j'en suis beaucoup plus détachée. Je ne peux pas faire les choses pour l'autre à sa place, quoi.
Ah non, ça c'est certain.
Il n'y a pas envie de changer, il y a des choses qui vont encore se produire, mais moi, je suis de plus en plus en paix avec tout ce qui peut arriver. Et ça ne me touche plus comme ça aurait pu me toucher avant. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis voilà, puis tous ceux qui... j'ai des amis qui m'ont connue avant la relation et puis qui me revoient maintenant. Et j'en ai une qui écoute certainement l'émission qui m'a dit « Ah, ça y est, je l'ai retrouvée, ma Christelle ».
Ah, ça, c'est donc bien cool. Et là, en plus, ben, dans l'ensemble de tout ça, l'écriture du livre a été une forme d'exutoire qui te permet d'avancer. L'écriture du deuxième va sûrement même t'amener à une étape supérieure, mais c'est l'inspiration que ça peut amener aux autres personnes de pouvoir faire la même chose, parce que t'es pas la seule à vivre ce genre de choses-là.
Non. Puis, je suis allée faire un témoignage hein, pour le regroupement des maisons des femmes au Québec. J'ai fait un témoignage devant les intervenantes par reconnaissance pour ce que j'avais vécu aussi. Et je suis contente parce que le livre est parti dans pas mal de maisons pour femmes. Puis, je pense que... Ça fera du bien.
Ah oui, absolument, ouais. Absolument. Ben moi-même, je veux dire, je n'ai pas tombé dans cette situation-là. C'était carrément autre chose, mais j'ai dû aller dans un service d'aide où j'ai été hébergé pendant une semaine. Et justement, on a quelques livres et quelques trucs qui se trouvent dans les endroits où on est. Et on n'a que ça à faire parce qu'on est en état de protection, on est en état d'attente. Et là, si le livre est à portée de main et on a un peu de temps pour le lire, et bien là, on peut s'imprégner de quelque chose de nouveau, c'est très inspirant.
Moi, dans ma vie aussi, il y a pas mal de livres qui m'ont permis de passer certains caps, donc c'est ça.
Wow! Et là, maintenant, c'est toi, Christelle Duquesnoy, qui fait cette aide-là aux autres. Et là, j'aurais envie de faire un petit clin d'œil d'une certaine façon. Je vois que ta préface a été écrite par Nathan Fortin.
Oui.
Qui est Nathan Fortin?
Alors, Nathan Fortin, c'est quelqu'un qui est devenu un ami. Au départ, c'est juste sur Facebook qu'on s'est échangé parce qu'il avait créé le mouvement qui s'appelle le Smile Movement. Puis moi, c'était quelque chose que je trouvais vraiment beau, c'est qu'il avait conçu comme un système où il faisait faire des tucs avec un symbole de Smile Movement dessus. Et chaque personne qui achetait une tuque, il y avait une deuxième tuque qui allait pour un itinérant de Montréal. Et il allait personnellement remettre une tuque à un sans-abri. Wow. Et il passait un moment avec lui pour justement faire du bien à ces personnes-là. Et je trouvais que c'était vraiment une belle initiative de cœur. Donc voilà, on est devenus amis. Et puis quand j'ai écrit mon livre sur le sourire, je me disais qui pourrait faire la préface. Puis moi, je voulais vraiment que ce soit une personne en lien avec le sourire. Et je voyais que pour moi, Nathan, c'était une évidence quoi, à ce moment-là pour parler du sourire et du sourire du cœur. Ça allait ensemble.
Et oui, absolument. Puis ça a dû faire chaud quand il t'a répondu oui.
Oui.
Super. Voilà, on vient d'avoir une entrevue avec Christelle Duquesnoy qui a écrit le livre « Le sourire du cœur, apprendre à sourire même quand les moments sont difficiles » que vous pourrez retrouver dans les éditions du Dauphin Blanc. Je crois que ça doit... Mais le Dauphin Blanc, ça se vend à plusieurs endroits, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs
librairies. Oui, il est en librairie.
Parfait. Donc, on vous invite à l'acheter. Et si vous n'avez pas eu le temps de prendre le lien ou que vous êtes dans votre auto en ce moment ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir sur la page de Nike Radio. On a partagé le tout. Tout est là. Vous n'aurez pas à le chercher. Et également, on vous a partagé aussi le lien Le Sourire en Partage, qui est une communauté Internet également. Est-ce que tu veux nous glisser un petit mot?
Oui, alors Le Sourire en Partage, c'est une communauté Facebook. C'est sa mission, c'est surtout de diffuser de plus en plus le sourire dans le monde et d'aider les personnes justement qui vivent des moments difficiles à rejoindre leur sourire intérieur pour voilà. Et c'est une mission d'unicité aussi, parce que je pense que le sourire, c'est un grand vecteur d'unicité. On prête pas assez attention à notre sourire, je pense, pour l'instant, dans la société. Et voilà, c'est une façon de mettre le sourire en avant, de mettre l'entraide, la coopération, l'échange entre les gens par le biais du sourire.
Wow, quelle bonne initiative! Est-ce que c'est cette communauté-là, est-ce que c'est une communauté à toi ou c'est une communauté de gens que tu connais?
Non, moi j'étais à l'initiative de créer cette communauté. Et puis j'invite tous ceux qui sont interpellés par le sourire à venir nous rejoindre. Il faut que, l'idée, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à développer le sourire.
Quelle bonne idée. Eh bien voilà, Christelle Ducanois, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous et d'avoir partagé tout ça. C'est très inspirant comme entrevue et j'ai adoré découvrir tout ça. Il ne nous reste maintenant plus qu'à lire le livre.
Vous m'en donnerez des nouvelles.
Absolument. Alors voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous et on se reparle éventuellement bientôt.
Oui.
Mes chers auditeurs, vous êtes à Prends ton gaz égal. On vient d'avoir une entrevue avec Christelle Ducanois. On va aller faire notre petite pause publicitaire et musicale. Et au retour, restez là parce que ce sera, pour les amateurs, notre chronique lutte. Vous savez, on essaie de se repimper, si on peut le dire comme ça, vu la situation. Vous savez qu'aux États-Unis, la lutte a été considérée comme service essentiel. C'est assez étrange. Mais malgré tout, on a de la lutte sans auditoire, ça fait quand même assez étrange, mais on va en discuter avec Alain Bérubé, notre journaliste. Donc, restez là, on se revoit de l'autre côté de la pause publicitaire.
168 heures de contenu par semaine. Des auditeurs partout dans le monde. NIKY.